Bonjour, je suis Colette, cofondatrice de l'association Mille Pattes. Retrouvons-nous pour parler agriculture, alimentation, circuit court et écologie sur notre territoire. Si le développement des filières locales et le bien manger vous intéressent, suivez-nous. Prenons ensemble la clé des champs.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. Content de vous retrouver sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Et nous allons parler géographie. Nous allons parler volvestre parce que je suis en compagnie de Henri Delpup. Henri Delpup, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes invité par l'association Mille Pattes.
Absolument. Je suis membre pratiquement depuis la création de cette association dont le but et de mettre en place le plan pour l'alimentation territoriale. Il s'agit de fournir les cantines privées comme publiques, 50% local et théoriquement 20% bio.
Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que vous avez cette casquette Mille Pattes, mais également vous êtes historien géographe.
Absolument, je suis un ancien professeur d'histoire géographie. J'ai presque envie de m'en excuser, vu la réputation qu'on nous fait. Non, j'assume. Je suis un ancien professeur d'histoire-géographie. J'ai enseigné en collège, en lycée, en école normale, puis à l'université où j'ai terminé ma carrière.
On va parler du volvestre, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire professeur d'histoire-géographie.
Alors, dans mon cas, c'est un hasard. J'ai commencé à travailler très tôt et, baccalauréat en poche, j'ai souhaité m'élever dans la société, comme on dit. Et donc, j'ai fait des études à l'Institut d'études politiques de Paris. Muni de mon diplôme, je me suis rendu compte que continuer à progresser compte tenu de mes origines sociales, certes, un bon sujet, mais pas suffisamment brillant pour pouvoir prétendre à autre chose. Donc, en traversant la Sorbonne, j'ai vu un appel à concours pour devenir professeur d'histoire-géographie, dans mon cas. Ce qui m'intéressait, c'est que ces études étaient payées. Et donc, j'avais là la possibilité d'apprendre tout en menant une vie d'étudiant sans trop de soucis financiers. À l'époque, je le souligne, un élève professeur, ce qui était mon cas, était payé 50% au-dessus du SMIC, comparé avec aujourd'hui les salaires des enseignants titulaires. Mais là, c'est un autre sujet.
Donc, vous êtes historien géographe et vous connaissez très bien la géographie de façon générale, mais celle de notre région.
Oui, ayant enseigné en école normale d'institutrice d'abord, puis école normale tout court, puisque j'ai eu en charge l'école normale d'instituteurs de Toulouse, donc les deux écoles normales, plus l'école normale d'instituteurs de Foix et celle d'Auch. Donc, j'ai été amené, effectivement, à partir du principe que pour enseigner la géographie, il faut apprendre à regarder autour de soi, à se poser des questions, et à essayer de trouver les réponses. En conséquence de quoi, enseignant en midi toulousain, comme on disait à l'époque, et effectivement, je me suis intéressé plus précisément à la géographie de la Haute-Garonne, de l'Ariège, du Gers, d'une manière générale à la géographie de l'Aquitaine.
Et après, de la partie plus est de l'Aquitaine, donc qui va nous concerner, nous particulièrement, cette zone qui se situe entre Toulouse et les Pyrénées, entre l'Aquitaine d'un côté et de l'autre côté les coteaux du Lauragais, cette espèce de tranche qui descend du nord vers le sud qu'on appelle, à partir d'un certain point que vous allez nous définir, le Volvestre. C'est quoi l'origine de cette zone ?
Alors l'origine de cette zone est ancienne. Ce qu'on lit dans la littérature, c'est de rapprocher le terme de Volvestre de la rivière principale qui traverse le Volp. J'ai jamais entendu parler d'une rivière. J'ai tendance à dire que les habitants de cette région, donc les Volques, qui étaient une population gauloise qui était installée largement sur ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Occitanie, puisque ces Volques se divisent en deux sous-populations, les Tectosages, dont la ville principale était Tolosa, et les Aricomiques, dont la ville principale était Nîmes, bien ces Tectosages, une partie d'entre eux, se sont installés dans cette vallée, et ont donné le nom au fleuve, à la rivière qui traversait le Volp.
On est à quelle époque, là?
Là, grosso modo, on est... Allez, on va dire qu'on va être au 5e siècle avant notre ère, à peu près. Hein, avant que les troupes de César ne viennent perturber un petit peu la région. Il faut savoir que ces populations... il faut savoir que cette population était réputée pour son savoir-faire, une espèce d'intelligence. Il était un... Moi, j'ai l'habitude de dire que les Gaulois, d'une manière générale, étaient les Japonais de l'Antiquité. À savoir, ils étaient capables de repérer ce qui était intéressant et nouveau, de l'adapter et de le faire progresser. Le cas de figure le plus connu, puisque nous sommes dans un midi, la vigne. La vigne est une plante typiquement méditerranéenne. Et quand je dis méditerranéenne, c'est vraiment bord de la Méditerranée. Eh bien, les Gaulois, qui aimaient bien boire, et boire abondamment, se sont dit, bah, nous pourrions nous-mêmes produire ce vin. Et ils se sont intéressés à la culture de la vigne, tant et si bien que, sous l'Empire romain, la vigne qui était cantonnée au bord de la Méditerranée remonte pratiquement jusqu'au bord de Loire, et les vins gaulois détrônent les vins italiens, au point que les empereurs romains sont amenés, pour lutter contre cette concurrence des vins gaulois, à prendre un certain nombre de mesures de restriction. C'est dire l'intelligence de ces Gaulois, plus précisément sur le Toulousain, ces Volques en question, ont amassé par le travail artisanal, le travail de l'or, dont certains spécimens peuvent se voir hein, à Toulouse, ont été amenés à constituer de véritables fortunes. Un général romain a eu le mauvais goût de s'en emparer. Il en est mort et le trésor a disparu. Et donc, une tradition romaine dit « l'or des Gaulois porte malheur ». Et donc, on a là une illustration de la puissance de ces Gaulois, de leur savoir-faire, de leur richesse, mais aussi de leur capacité à se défendre.
Et d'aucuns disaient également que les Gaulois avaient une administration interne qui était très avancée et surtout une certaine forme de démocratie qui était aussi très, très prononcée.
Absolument. Absolument. Le monde gaulois n'est pas tout à fait Astérix et Obélix. Ce n'est pas tout à fait des gens qui se nourrissent essentiellement de chasse. Non, le monde gaulois est un monde extrêmement sophistiqué, très évolué techniquement. Ceci explique, ce degré d'évolution explique qu'il y a pu avoir cette fusion entre ce monde gaulois et le monde romain. On est là dans deux sociétés qui étaient finalement très proches et qui ont pu donner naissance à ce qu'on a appelé la civilisation gallo-romaine. Donc ces Gaulois avaient des magistrats, ce qu'on appelle les druides. Les druides, c'est pas simplement, comme dans Astérix, ce personnage qui, habillé de blanc, va couper du gui. Non, le druide, certes, parce qu'il est la mémoire, parce qu'il est le savoir, parce qu'il a des compétences extrêmement étendues dans des tas de domaines, qui va de l'astronomie à la médecine. Cet homme-là, effectivement, occupe des positions élevées dans la société, conseille les chefs militaires. Il faut savoir que ce monde gaulois relève de la civilisation dite indo-européenne dont le caractère particulier est la division de la société en trois groupes. Ceux qui combattent, ceux qui prient, les druides en question, et ceux qui travaillent, la masse des gens, ce qu'on appelait plus tard le tiers-état, mais la masse des gens qui étaient agriculteurs, artisans, commerçants, etc. Les druides avait pour mission, en quelque sorte, de tenir l'équilibre entre ces trois éléments, de faire en sorte que les chefs militaires, les guerriers, qui se retrouvaient dans des citadelles, qu'on appelait des oppidums, n'accaparent pas tout le pouvoir, maintiennent un certain équilibre. On était dans une société, disons, de monarchie tempérée.
Et sur notre secteur, nous avons même l'archéocyte gaulois, qui se situe juste à côté pour ceux qui veulent en savoir plus. Revenons un peu à ce Volvestre, il s'est construit comment?
Dans ce mot de Volvestre, et dans la construction de ce Volvestre, il y a une précision à apporter. Le terme administratif aujourd'hui, la région telle qu'elle est définie aujourd'hui du Volvestre, est quelque peu différente du Volvestre historique. Ce Volvestre d'aujourd'hui, grosso modo, il part au nord depuis Montau et descend au sud pratiquement pas loin des Pyrénées, englobe une partie des Pyrénées, Colladère, Sainte-Croix, etc. Donc on descend très très au sud. Il englobe largement, avec Pessis, Lafitte, La Vlanée, une bonne partie de la vallée de la Garonne. Ça, c'est la définition, je dirais, administrative, qui plus est, coupe ce Volvestre en deux départements, une partie relève de la Haute-Garonne, une partie relève de l'Ariège. Le Volvestre géographique et historique, ce Volvestre historique remonte beaucoup moins au nord, hein, Carbone. Carbone marque en quelque sorte sa limite, et de la même manière, il descend assez largement au sud, c'est-à-dire qu'il englobe une partie de la basse Ariège, mais ne glisse pas au-delà de la Garonne. La plaine garonnaise n'est pas de son domaine. Ce qui se comprend très bien jusqu'à une date récente, il ne faut pas oublier que Garonne est sujette à des inondations impressionnantes, dévastatrices, donc on n'a pas trop intérêt à s'y intéresser. Il ne faut pas oublier que la dernière grande inondation sur la Garonne, elle date de 1875, où elle a détruit quartier Saint-Michel à Toulouse et a fait plusieurs milliers de maisons détruites. La reconstruction a pris plus de 30 ans. Donc c'est dire l'importance. Et les colères de la Garonne étaient impressionnantes, et ce jusqu'à une date récente. J'ai souvenir, j'ai évoqué ma carrière comme professeur d'école normale, j'ai souvenir d'un collègue qui habitait quartier Saint-Michel, et il m'expliquait que dans toute son enfance, il gagnait le centre-ville parce que Garonne déborde, et lui qui était à Saint-Michel, la maison était, il avait les pieds dans l'eau pendant 3, 4, 5 jours, tout dépend de la durée de l'inondation. Aujourd'hui, c'est fini avec les lacs de retenue, les barrages, la régulation, la chose est terminée. Donc, pour revenir à notre Volvestre historique, le Volvestre historique ne déborde pas. Il reste soigneusement autour du Volpe et d'un certain nombre de rivières, dont la Rize, par exemple. Il reste soigneusement dans ses vallées et occupe tout un ensemble de collines relativement particulières. Le Volvestre, c'est vraiment un domaine assez spécifique. Ce n'est pas pour rien que les Volques ont donné leur nom à cette zone-là. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils y ont trouvé quelque chose qui les distinguait des régions environnantes. Le Lauragais d'un côté, les Pyrénées au sud, les coteaux de Gascogne à l'ouest. Nous sommes dans un domaine tout à fait singulier. Ce Volvestre historique se construit essentiellement sur un domaine de collines tailladées de rivières qui toutes descendent vers la Garonne.
Ce que vous disiez en préparant l'émission également, c'est que ce Volvestre, en fait, est une espèce de zone d'échange et d'intermédiaire entre plusieurs autres zones beaucoup plus prononcées.
Absolument. Et c'est ce qui fera, mais nous y reviendrons plus tard, c'est ce qui fera aussi que le Volvestre a été, et d'une certaine mesure, est encore une région relativement prospère parce qu'elle est une zone de contact entre différents ensembles caractérisés. Donc, bien sûr, ça se voit dans le paysage, et aujourd'hui, si vous avez regardé vers le sud, vous avez vu ces Pyrénées enneigées qui forment une barrière. Certes, donc, on a ce monde pyrénéen qui est là, qui est tout à fait singulier, et la limite entre le monde pyrénéen et le Volvestre, c'est la cluse de Boussens. Hein. Les géographes emploient vraiment ce terme de cluse, qui est vraiment un seuil paysager entre les collines agricoles et habitées du nord, donc d'ici, et les monts et les montagnes beaucoup moins habitées du sud, donc du monde pyrénéen. La forêt est beaucoup plus importante une fois passée la cluse, et par ici, ce sont les domaines de culture. Donc on a ce monde-là. Et puis, vous avez la plaine de la Garonne, bon, voilà, qui est encore autre chose, aujourd'hui qu'elle est régulée, etc. Mais la plaine de la Garonne, qui est déjà autre chose, qui ouvre vraiment sur l'Aquitaine, qui conduit vers des grandes villes. Alors, Carbone, déjà, avait sa singularité et son importance, mais bien sûr, Toulouse, hein, bien sûr, Toulouse. Et cet axe de circulation garonnais a été un axe qui ne s'est pas contenté de la Garonne. Hein. Je vais changer de région pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Je vais parler de l'Alsace. Aujourd'hui, pour un Français, l'Alsace, c'est le Rhin. Non, pour un Alsacien, l'Alsace, c'est pas le Rhin. L'Alsace, c'est son affluent principal, l'Ill. en alsacien, Esch, qui a donné Alsace, Alsace. Voilà. Pour les mêmes raisons que pour la Garonne. Le Rhin est un fleuve impétueux, qui déborde, qui change de lit, etc. Exactement comme la Garonne. En revanche, ses affluents sont beaucoup mieux régulés, beaucoup plus tranquilles, et donc propices à la vie humaine. C'est ce qui s'est passé ici. Le Volp a permis une installation humaine beaucoup plus assurée, beaucoup plus régulière, donc beaucoup plus favorable à la vie humaine. On a à l'ouest cette présence de la vallée de la Garonne qui est d'une certaine mesure, ce qui n'est plus aujourd'hui le cas, mais à l'époque qui était d'une certaine mesure une certaine barrière. Et puis bien sûr, à l'est, vous avez encore un monde qui se développe, tout à fait singulier, qu'est le Lauragais.
Ces coteaux qui créent aussi une autre barrière naturelle.
Absolument. Et ces coteaux qui créent une autre barrière naturelle.
Donc des gens se sont installés entre ces deux barrières, la Garonne d'un côté et de l'autre côté ces coteaux. Alors, si on reprend la toponymie Carbone, Rieux-Volvestre, Montessieu-Volvestre, Sainte-Croix-Volvestre, qui sont donc installés le long de ce couloir que constitue le Volvestre. Et sur l'aspect géologique, ça s'est passé comment?
Alors, nous sommes ici sur des domaines, grosso modo, ce qu'on appelle des boulbènes, c'est-à-dire des dépôts qui se sont effectués sur des millénaires. Ces boulbènes, ce sont des sols relativement fragiles qui se dégradent en terre forte d'un côté, qui se dégrade en sol alluvionné de l'autre. Donc, on a là quelque chose qui est propice à une installation humaine. On a ces vallées, ça aussi, puisque l'érosion fonctionne, on a des vallées qui sont, somme toute, relativement larges. Elles atteignent les rivières qui se sont installées au cours de l'époque récente, hein, le Quaternaire, bon, ça représente quelques millions d'années, c'est par rapport aux échelles géologiques, c'est vraiment ridicule. Mais c'était suffisant pour tailler ces collines, pour en faire des couloirs de passage avec des tranches jusqu'à 40 mètres de différence entre le sommet et le fond. Et un fond relativement plat. Donc on a des axes de circulation qui se mettent en place, qui permettent le développement de nos petites villes qui viennent d'être citées. Mais chacun ayant le souci de garder son nom Volvestre.
Sur ce couloir-là, on a parlé un peu de la géologie et le Volvestre aussi, à travers le temps, a connu différentes phases climatiques.
Oui, alors ça, on a toujours tendance un petit peu à l'oublier. Le climat change. Je veux dire, ça date pas d'aujourd'hui. Les raisons sont peut-être pas les mêmes. Hein. Le climat change. Nous avons connu la région. Nous, non, malheureusement, on n'a pas vécu aussi longtemps.
Mais je vous coupe deux secondes. Notre vision de l'évolution de l'histoire sur 80, 100 ans pour les plus chanceux, j'allais dire, est très courte, alors qu'à l'échelle géologique et à l'échelle climatique, il y a des choses qui se passent sur des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'années, qui font que on a une vision totalement différente et les changements climatiques se sont produits plusieurs fois dans le temps.
Oh oui. Alors, pour que vous ayez des images, dites-vous bien que la Garonne et ses affluents, donc le Volp, pouvaient ressembler aux fleuves africains. Le Niger, par exemple, avec, je sais pas s'ils existent à l'époque, mais leurs équivalents, les crocodiles, les girafes, qui allaient dedans. Et inversement, on a d'autres périodes où cette même Garonne et ce même Volp ressemblaient au fleuve sibérien. C'est-à-dire, avec une prise des glaces pratiquement 6 mois dans l'année, une période de débâcle, c'est-à-dire de fusion des glaces, où d'énormes blocs de glace chavirent, pensez à la retraite de Russie de Bonaparte, et inversement, les périodes d'embâcle où l'eau se saisit et devient glace. Donc, et exactement les paysages de la toundra sibérienne, comme aujourd'hui. On a des variations énormes. Donc, les conséquences sont aussi importantes. On ne se rend pas compte. Le climat, c'est soit du froid, mais le froid fait éclater les roches. L'eau gèle, mais l'eau qui gèle prend un volume plus important, donc à la limite devient un coin qui fait exploser une roche. Mais inversement, quand il fait très chaud, la chaleur et l'humidité transforment des roches dures, le granit par exemple, en roches entre guillemets tendres. C'est-à-dire qu'elles se décomposent très très vite, donnent des sables, donnent des argiles. Quand je vous ai dit que dans nos régions, une des singularités des sols ici était les terres forts et les boulbènes, le terre fort, ce sont des terres argilo-calcaires, ce sont des terres marneuses Au mieux, ce sont des terres avec graisseuses aussi. Donc, voilà. À la différence des fonds de boulbène qui sont des alluvions et des sols relativement légers. Mais ce phénomène-là est un phénomène qui est lié au climat, la chaleur, l'humidité. Donc, on ne réalise pas à quel point les climats ont aussi façonné les sols sur lesquels on se trouve. Alors, l'origine, le pourquoi de ce phénomène, ça y est, on a une idée assez précise, c'est l'inclination de la Terre. Vous savez bien que la Terre tourne autour du Soleil, mais l'axe de la Terre n'est pas parallèle à celui. Il est légèrement incliné. Et cette inclinaison fluctue dans le temps. Donc ça, ce sont des mathématiciens. L'hypothèse a été émise au 19e siècle et a été vérifiée, preuve à l'appui, cette fois-ci on ne peut plus discuter, en 1976. C'est-à-dire qu'on a calculé très précisément ces variations de l'axe. Et puis les géologues ont fait des carottages. Ils sont descendus, grosso modo, ils ont remonté de 800 000 ans l'histoire climatique de notre Terre. Et ils se sont aperçus que, au cours de ces 800 000 ans, on a connu 25 événements dans lesquels des périodes glaciaires et des périodes, entre guillemets, plus chaudes de transition se sont déroulées. Donc, simplement pour mémoire, hein, ce phénomène a joué et joue encore aujourd'hui, hein. Les historiens qui se sont enfin intéressés un petit peu à la chose ont constaté que, par exemple, puisqu'on donne toujours cette référence, 1850, bon, soit, effectivement, c'est le début de la révolution industrielle, ils ont constaté qu'effectivement, entre 1850 et aujourd'hui, on a gagné 1 degré. Mais attention, c'est pas d'un seul coup que ça s'est fait. C'est lentement, et puis, c'est pas continu. Au fond, on a constaté que on a gagné entre, 1910 et 1940. Pourquoi? Parce que entre 1850 et 1910, la température moyenne est stable. Quand je dis température moyenne, hein, en gros, la moyenne est de 14 degrés. On gagne un demi-degré entre 1910 et 1940. Et puis, de 1940 à 1980, ça ne bouge pas. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que, oui, autrefois, c'était pas pareil. Ils ont raison. Ils ont raison, pourquoi? Parce qu'à partir de 1980, à nouveau, on gagne un demi-degré. Alors, les motifs, ils peuvent se discuter, ils se discutent à juste titre. Simplement, et ce n'est pas faux, on constate que l'activité humaine, ce qui ne veut pas dire, et je tiens à préciser tout de suite, quand je dis l'activité humaine, c'est l'activité de tous les hommes à la surface de la Terre. C'est pas uniquement les Français, et encore moins, bien sûr, les habitants du Volvestre. Donc, l'activité humaine produit des gaz à effet de serre. Bon, grosso modo, on peut dire que ces gaz à effet de serre représentent un surplus par rapport à ce que la nature elle-même fait, parce que la nature produit des effets à gaz à effet de serre. Ben, la nature, bon, produit, mais elle en produit et elle le stocke. Donc, match nul. L'homme rajoute là-dessus environ 2%. À juste titre, on peut se dire, bon, 2%, c'est quand même pas la mer à boire. Sauf que 2%, année après année, c'est comme les intérêts autrefois dans les caisses d'épargne, hein, où vous rajoutez les intérêts au capital qui lui-même produisait de l'intérêt. Eh bien, ces 2% sur 50 ans, eh bien, ça double la masse de gaz carbonique atmosphérique. Donc, les choses se discutent, mais je dis bien, à la surface de la Terre. Ce n'est pas uniquement les Français. Il faut être nuancé et très prudent. Et surtout, il faut réaliser que ces évolutions sont des évolutions sur du très long terme. Très long terme, bien sûr, à l'échelle de la vie humaine. Au mieux, nous vivrons un siècle. Les phénomènes que je décris ou que j'évoque se déroulent sur des milliers d'années. Il faut ne pas perdre de vue cette dimension-là. Bien malin qui pourra me dire ce qui va se produire dans 300, 400 ou 500 ans.
On voit bien qu'un territoire, ça correspond à une géographie, ça correspond à un climat, et on verra une prochaine fois comment les hommes aussi façonnent le territoire à travers leur installation et à travers leur exploitation, entre guillemets, de ce territoire, avec l'agriculture d'un côté, l'élevage de l'autre côté, la sylviculture encore.
L'artisanat, on l'oublie toujours, l'artisanat. Dans cette région du Volvestre, j'ai évoqué la nature des sols argileux. Avec quoi construit-on les maisons? Avec des briques. Qu'est-ce qu'on met sur les toits? Des tuiles. Il y a eu un artisanat très, très important de briqueterie, de production de tuiles, etc. J'évoquais aussi l'agriculture. Dans les périodes fraîches et humides, si les céréales ont un peu de mal à pousser, d'autres plantes peuvent prospérer, comme le chanvre ou le lin. Et on avait droit à toute une industrie textile qui, dans nos régions, a duré près de 200 ans au XVIIe et XVIIIe siècle.
Bah, les draperies de Montesquieu-Volvestre.
Les draperies de Montesquieu-Volvestre, exactement.
Entre autres. Les papeteries de l'Ariège.
Qui existaient aussi en le Volvestre. Et oui, la présence de l'eau et la présence des forêts, ça faisait du bois, etc. Et les tissus qu'on recyclait, on ne jette rien.
Ce sera l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup Henri Delpup. Donc je rappelle que vous êtes un ancien géographe et que vous avez une particularité, c'est que vous connaissez très bien notre région, entre autres, et ça sera l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour votre accueil et tout le plaisir d'être avec vous.
Au revoir.
Au revoir.